Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello, je suis Mélanie Wanga. Elle est partout. Dans les journaux, sur les plateaux télé, sur les ondes, sur Internet.
C'est l'une des ministres les plus médiatiques et à la fois les plus identifiées. Marlène Schiappa.
Marlène Schiappa,
bonjour.
Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, monte au front chaque semaine ou presque pour défendre la politique du gouvernement. Et c'est cela que l'on retient d'elle, un soutien sans faille au président Emmanuel Macron et à La République En Marche, qui le lui rendent bien. À 36 ans, cette femme politique incarne une forme de renouveau et assume un positionnement féministe, portant sur le devant de la scène les questions d'égalité des genres, la grande cause nationale du quinquennat. On lui doit notamment le projet de loi, dit la loi Schiappa, qui renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, promulguée en 2018. Et pourtant, la secrétaire d'État est controversée. Un parcours atypique, des prises de position qui ne plaisent pas à tout le monde, et une question que pas mal d'entre nous se posent. Qui êtes-vous, Madame Schiappa ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Alors, il y a deux portes d'entrée pour comprendre Marlène Schiappa. L'écriture et le web. Et plus particulièrement, l'écriture web. À la fin des années 2000 et au tournant des années 2010, c'est grâce à cet outil qu'elle se fait connaître et fait passer ses idées, notamment sur l'égalité femmes-hommes et l'entrepreneuriat. Diplômée en communication et nouveaux médias, mention écriture électronique, puis salariée de l'ex-Euro-RSCG, Marlène Schiappa a toujours mené de front une panoplie d'activités relatives à l'écriture, donc la communication et ses chevaux de bataille. À l'époque, cela voulait dire passer par les blogs. En 2008, Marlène Schiappa fonde donc le fameux blog Maman Travail, qui milite en faveur de la conciliation entre le travail et la vie privée, demandant des mesures politiques comme l'allongement du congé paternité. Elle travaille aussi pour plusieurs agences de presse produisant du contenu pour des sites d'information et des marques. Dès 2010, elle se lance dans l'écriture d'ouvrages divers et variés. Chez La Musardine, elle publie « Oser l'amour des rondes », qui fera polémique pour son contenu jugé grossophobe, ainsi que d'autres titres sous pseudonyme comme « Oser réussir votre divorce »,« Les filles bien n'avalent pas »,« Sexe, mensonge et banlieue chaude »,« Oser la première fois » ou encore « Oser les sex friends ». Alors, trouver des interlocuteurs pour nous parler de la personnalité de Marlène Schiappa à cette époque est un exercice intéressant. Que ce soit auprès de ses collaborateurs de l'époque ou de ses éditeurs, au vu de sa présence politique aujourd'hui, les fins de non-recevoir pleuvent. Pourtant, la journaliste Isabelle Jarmin a accepté de nous parler. En 2009, elle crée le site d'information Les Nouvelles News et rencontre Marlène Schiappa à l'époque où cette dernière crée Maman Travail, qui de simple blog devient une association dédiée à la promotion des femmes dans l'univers professionnel. À travers ce réseau, une espèce de sphère de féministes 2.0 à la française émerge et des liens se tissent entre les deux femmes. Isabelle Germain, elle aussi, tient alors un blog sur l'égalité professionnelle. Et elle va même recruter Marlène Schiappa dans son média d'actualité.
Je me souviens notamment d'un dîner où on avait été invité par Éric Besson, qui était à l'époque ministre en charge du numérique, et qui avait invité des blogueurs. À l'époque, voilà, il y avait peu de blogs qui étaient nés, donc il avait invité des blogueurs et puis d'autres amis du réseau qui ont créé aujourd'hui le réseau Jamais Sans Elle, mais qui avaient créé Girl Power, etc. Alors, des amis étaient les seules femmes invitées à ce dîner et elles ont dit au ministre, nous on ne vient pas si vous n'invitez pas autant de femmes que d'hommes à ce dîner. Et donc il a invité, ben, moi-même, à l'époque je tenais un blog qui s'appelait Du Rose dans le Gris, Marlène Schiappa tenait Maman Travail, et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés aussi à ce dîner, où Marlène, je dois dire, a été très, très offensive, très rentre-dedans, enfin, j'ai été très impressionnée par les sujets qu'elle soulevait, devant ce ministre qui n'avait pas l'air du tout ouvert aux problématiques, aux questions que pouvaient soulever les femmes sur les réseaux sociaux.
C'était quel type de questions justement qu'elle lui posait à ce moment-là ?
C'était des questions sur la conciliation vie familiale, vie professionnelle, sur que puisqu'il était en charge du numérique, comment il pouvait, lui, en tant que ministre en charge du numérique, faire en sorte que on change les modalités de travail, qu'on change un petit peu le droit du travail pour permettre une meilleure conciliation aux parents. Et comme il avait l'air de tomber des nues et de découvrir la question, elle a un peu chambré à l'époque.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a rapproché toutes les deux, que ce soit en termes de conviction ou de projet ?
On était très raccord sur toutes les questions d'égalité homme-femme. Enfin, peut-être pas sur toutes, parce que voilà, il y a peut-être des différences sur certains sujets. Mais on a toujours ramé dans le même sens. Le milieu, entre guillemets, féministe, c'est un mot tabou, donc on n'ose pas le prononcer, mais enfin, est un tout petit milieu, donc forcément, on est très proches. Et puis, on avait compris l'une et l'autre que l'évolution ne pouvait passer que par Internet, parce que pendant des années, la parole des femmes a été verrouillée, parce que les médias étaient dirigés par des hommes qui exprimaient des préoccupations d'hommes. Et les féministes ont compris que c'était sur les réseaux sociaux que ça pouvait faire changer. Et on le voit aujourd'hui.
Du coup, vous parliez des combats de Marlène Schiappa. Quels étaient-ils précisément ? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'égalité salariale, le traitement des femmes sur le lieu de travail ?
Alors, Marlène Schiappa, son premier combat, c'était Maman Travail. Donc, c'était de faire en sorte que l'organisation du travail permette aux hommes et aux femmes de mieux concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle. Alors, surtout aux femmes. Voilà, toute la question des congés parentaux, mais aussi, le télétravail, et puis, les congés pour les hommes comme pour les femmes.
Comment vous... Vous décririez, enfin vous l'avez un peu fait, mais comment vous décririez son caractère, sa personnalité à cette époque ?
À cette époque, ouais, c'est quelqu'un de très, très ouvert, très à l'écoute et en même temps quelqu'un de très décidé, gonflé. Voilà, moi je l'ai vu poser des questions qui titillaient notamment Éric Besson, donc à l'époque qui était ministre. Elle a organisé des conférences, des colloques, elle a fait venir des personnalités. Donc c'est quelqu'un qui a pas froid aux yeux, qui va chercher les gens, qui les bouscule, qui les interpelle, qui écrivait des papiers même assez gonflés dans son blog. Qui était très 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 présente sur les réseaux sociaux, qui a développé, moi c'est pour ça d'ailleurs qu'après je l'ai recrutée, mais qui a développé une communication sur les réseaux sociaux assez extraordinaire, qui était très efficace là-dessus.
C'est vrai qu'elle a fait des études de communication et ça la sert beaucoup en fait. Je pense que ça l'a servi pour porter notamment ses projets personnels en rapport avec le féminisme et professionnel, mais ça la sert encore aujourd'hui. Vous parliez du fait que vous l'avez embauchée pour les Nouvelles News. Comment ça s'est passé ? Quel rôle elle a joué en fait dans votre média ?
Alors, en fait, à un moment, j'ai eu besoin de recruter un community manager et je l'ai appelée, mais pour savoir si elle connaissait quelqu'un qui pouvait venir dans mon entreprise. Mais je n'avais pas pensé à elle parce que je pensais déjà qu'elle était surcalibrée pour le poste. Et elle m'a dit, mais moi, je veux bien venir, ça m'intéresse. C'était un poste à temps partiel, donc ça l'intéressait. Donc c'était avant qu'elle rentre au cabinet de Laurence Rossignol. C'était en 2015. Voilà. Donc je lui ai dit, pourquoi pas, allons-y. Et c'est vrai qu'il s'est avéré qu'effectivement, elle était surcalibrée pour le poste, donc elle n'est pas restée très longtemps. Mais voilà, elle avait plein d'idées, elle avait plein de choses qu'elle proposait de faire qui ne correspondaient pas à ce pourquoi je l'avais embauchée, parce que moi j'avais des impératifs très précis, son poste s'inscrivait dans un projet très précis, j'avais des comptes à rendre au fond Google qui me soutenait, etc. Donc c'était un peu compliqué. Donc elle n'est pas restée très longtemps, mais c'était en télétravail en plus, donc on s'est pas vu énormément. Mais c'est quelqu'un de très engagé qui voulait faire avancer le sujet de l'égalité homme-femme.
Donc, quelle était sa manière de travailler ? Elle faisait beaucoup de propositions qui dépassaient un peu le poste simplement de community manager, c'est ça ?
Voilà, c'est-à-dire qu'elle faisait, elle faisait des propositions qui étaient en dehors du champ pour lequel on l'attendait. Plus toujours sur la question de conciliation vie familiale, vie professionnelle. Voilà, après, on ne se voyait pas beaucoup parce que c'était en télétravail, donc...
Elle avait d'autres occupations à ce moment-là que ce travail pour lequel vous l'employiez. Elle était déjà... Elle avait déjà commencé à entrer en vie politique.
Oui, oui, elle était déjà élue. Je crois qu'elle était déjà élue à la mairie du Mans, à l'époque. Oui, je l'avais faite aussi intervenir avant de l'embaucher, parce que comme on avait des engagements communs, à un moment, j'ai organisé un colloque. Alors nous, Nouvelle News, on organise des colloques qui s'appellent le sexe 2. Donc ça s'appelait le sexe de la ville. Et en tant qu'élue du Mans, qui était engagée sur ces questions d'égalité homme-femme, je l'avais faite intervenir dans ce colloque. Donc, et ça, c'était avant de l'embaucher pour ce poste de community manager.
Entre cette époque, on va dire milieu des années 2010 et aujourd'hui, comment vous qui l'avez connu au début, vous avez un peu observé son ascension, ses nouvelles responsabilités, et quels traits de caractère vous pensez ou manière de travailler l'ont servi en fait?
Je pense que c'est son engagement très fort. Moi, ce que j'admire chez elle, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. C'est-à-dire qu'elle va se mettre en face de grands responsables politiques et elle va dire ce qu'elle pense, elle va défendre ses engagements, défendre ce qu'elle veut. Donc voilà, ça c'est une grande qualité chez elle. Et elle l'a toujours eue. Enfin, depuis que je la connais, voilà, je l'ai toujours vue avec cette qualité-là. Après, elle a évolué sur la question de la communication. C'est quelqu'un qui est sans filtre. Elle a changé, donc elle pense quelque chose, elle le dit, et peu importe les conséquences. Bon, depuis qu'elle est ministre, elle a été obligée de mettre de l'eau dans son vin. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça, elle continue. Et moi, je trouve que depuis qu'elle est ministre, alors il y a beaucoup de griefs à son encontre, et ça, ben voilà, c'est normal quand on s'expose à ce niveau de responsabilité, il y a forcément des critiques. Mais je trouve qu'elle a gardé, qu'elle a quelque chose qui est très précieux, qui est très important et qui a toujours été très compliqué pour les femmes qui ont occupé ce poste avant elle, c'est qu'elle n'hésite pas à bousculer les autres ministres. Et très souvent, les femmes qui avaient ces postes-là ont eu du mal à faire bouger les autres ministres. Elle n'hésite pas à mettre les sujets d'égalité homme-femme au centre du débat, à bousculer les ministres. Alors après, quand on est au niveau des arbitrages budgétaires, elle n'a pas toujours gain de cause, c'est compliqué, mais en tout cas, elle met le sujet sur la table. Elle est quand même une des ministres les plus populaires du gouvernement, ce qui est probablement très bien pour sa personne, j'en sais rien, mais en tout cas, pour la cause qu'elle défend, c'est très bien parce que ça lui donne beaucoup de visibilité, ça met la question au cœur des agendas de la politique et des journaux, donc on parle beaucoup des sujets. C'est la première étape vers des évolutions et des changements de société. Donc voilà, ce sont des qualités qu'elle a. Et justement, c'est lié. Alors, on lui reproche beaucoup de faire de la communication, mais c'est parce qu'elle fait de la communication qu'elle fait bouger les choses.
Marlène Schiappa démontre très tôt un attrait envers la politique. En 2001, à l'âge de 18 ans, elle se porte candidate aux élections municipales à Paris. Pourtant, sa véritable transition de la vie civile vers la vie politique se fera bien plus tard, en 2014, au Mans. Parmi les élus de cette ville d'un peu plus de 140 000 habitants, les dents grincent et personne ne veut vraiment s'aventurer à répondre sur cette période de la carrière de Marlène Schiappa. Par exemple, Isabelle Sévère, première adjointe et maire adjointe au Mans, nous a ainsi répondu.
J'ai envie de vous dire encore un portrait de Madame Schiappa. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au Mans, dans un contexte tendu, et qu'il ne me semble pas à propos de m'exprimer sur Madame la secrétaire d'État en ce moment. Je vous invite à lire le livre « Marianne est déchaînée ». Cela vous renseignera sur la personnalité de Madame Schiappa, elle-même élue du Mans, au moment de la publication. Je vous laisse apprécier.
Marianne est déchaînée, paru en 2015, est le deuxième roman de Marlène Schiappa. Une fiction plus vraie que nature, qui relate les aventures d'une certaine Marianne, donc, récemment élue à la mairie de Romans. Dans la vraie vie, Marlène Schiappa est alors adjointe au maire du Mans, chargée de l'égalité, de la lutte contre les discriminations et de la charte LGBT. Et cette version romancée n'hésite pas à flinguer ses collaborateurs et collaboratrices. Ambiance. Je me suis donc tournée vers la rédactrice en chef adjointe du site des Inrocks, Fanny Marlier, qui a réalisé un portrait sur Marlène Schiappa pour nous aider à retracer ses premiers pas en politique de l'époque et les rencontres importantes qui ont jalonné sa progression.
Il y a vraiment une rencontre qui est très importante dans la carrière de Marlène Schiappa, c'est quand elle déménage au Mans, donc à la fin des années 2000. C'est une décision qui elle a déjà très médiatisée, qui fait la une de la presse locale, parce qu'elle en a parlé dans son blog, Maman Travaille, tout ça. Et très vite, du coup, le maire PS de l'époque du Mans, qui est Jean-Claude Boulard, demande à la rencontrer, en fait, et un peu interpellée, comme elle a fait voilà, cette une des médias. Et Marlène Schiappa arrive avec sa fille au rendez-vous et une manière de montrer que, bah oui, pour conjuguer voilà, les rendez-vous un peu professionnels et sa vie personnelle, c'est son mode de fonctionnement, quoi. Donc déjà, ça interpelle un peu Jean-Claude Boulard à l'époque, qui est assez impressionné, étonné, qui dit quelque chose qui a cette pensée qui dit les idées originales, nouvelles, qui font réfléchir, ben on les prend, quoi. Donc ça, ce côté-là, un peu moderne, un peu différent, lui, ça lui plaît. Et c'est vraiment lui qui lance sa carrière, parce qu'en 2014, il la nomme quand même adjointe à l'égalité des chances. Donc petit à petit, elle gravit les échelons et elle intègre le cabinet de Laurence Rossignol.
Ce style rentre-dedans, qui dit ce qu'elle pense au moment où elle le pense, va amener Marlène Schiappa assez loin. Mais il va aussi lui attirer des détracteurs.
Alors, le style Marlène Schiappa, qui est décrit aussi par certains de ses anciens collaborateurs, c'est quelqu'un de très colérique, qui peut s'emporter, qui ne supporte pas la contradiction. C'est vraiment comme ça que des gens qui ont travaillé avec elle, en tout cas, l'ont décrite. Elle s'est beaucoup fâchée avec certains de ses anciens collaborateurs.
Pour mieux comprendre, on va écouter un échange récent où la secrétaire d'État est interviewée par le journaliste Julien Pain de France Info sur la gestion d'un compte de soutien sur les réseaux sociaux.
Il y a eu une enquête notamment qui a été faite par des journalistes de Libération qui est
une
opérée.
Une enquête, quatre clics. Une enquête. Alors quels sont les éléments de cette enquête?
Les photos sont très souvent les mêmes entre le compte officiel et ce compte-là.
Je ne vous dis pas que c'est complètement faux, je vous dis que moi, personnellement, je n'administre pas les comptes de soutien, donc je ne suis pas en mesure, très sincèrement, de vous dire qui poste quoi.
Est-ce que ça peut être un de vos proches qui administre directement ce compte?
Mais bien sûr, mais c'est illégal, enfin, quel est le problème? On est clair, on est un compte de soutien.
Mais c'est qu'il y a pour avec compte, Marlène. C'est un compte de communication officielle.
Mais c'est pas un compte de communication officielle.
Donc ma question, elle est très précise, et je vous demandais d'être précise dans votre réponse.
Quelle est votre
question? Est-ce que quelqu'un de votre cabinet peut tweeter sur ce compte, lui, directement? Je ne vous parle pas d'envoyer des photos à des soutiens, je vous dis, lui, tweeter directement. Est-ce que vous me dites que c'est faux?
Je ne vous dis pas que c'est faux, je suis en train de vous dire que moi, je ne sais pas, honnêtement, je peux poser la question, je peux me renseigner, mais moi, je suis un petit peu occupée, j'ai un peu autre chose à faire que savoir qui a exactement derrière chaque compte, je suis très claire dans ma réponse.
Vous ne voyez pas le problème avec utiliser un compte qui se présente comme un compte de soutien, alors qu'en fait, c'est un compte qui est administré par des gens dans votre cabinet,
mais
donc un compte officiel.
Je viens de vous dire qu'il n'est pas administré par les gens de mon cabinet.
Donc ça, vous me l'affirmez.
Vous me posez 37 fois la même question.
Non, mais là,
vous ne répondez pas chèrement.
Vous me dites, ce compte-là n'est pas administré par quelqu'un de mon cabinet, et je vous l'affirme, moi, je vous entends. C'est ce que vous me dites.
Alors, moi, ce que je vous dis, je vous ai répondu clairement. Je vais vous répondre une 38e fois, et puis après, on va arrêter là, si vous voulez bien. Je sais qu'il y a des gens de mon cabinet qui sont en contact avec les gens qui animent ce compte, qui leur envoient des photos, qui leur adressent des éléments de langage. Ça s'appelle faire de la politique, ça s'appelle faire de la communication politique sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas précisément qui sont les noms des personnes qui sont derrière. Ce que je sais, c'est qu'il y a effectivement des gens de mon cabinet qui peuvent adresser des photos, qui peuvent adresser des éléments de langage à ce compte de soutien.
C'est normal de défendre son bilan, mais en tout
cas... On avait dit un quart d'heure, ça fait 25
problème,
minutes,
c'est fini.
On a épuisé notre temps.
C'est fini,
merci,
il n'y a aucun problème, je vous remercie.
On le voit, Marlène Schiappa est une communicante née. Son style et sa communication sont efficaces et bien partis pour durer. Son statut d'outsider, elle en joue quelque part.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Marlène Schiappa, elle est à la base diplômée en communication. Et donc ce statut d'outsider, comme vous le dites, c'est finalement devenu une force chez elle. C'est au sein du gouvernement, puisque c'est une femme qui est assez jeune, moderne, et qui a le mérite de mettre des sujets sur le devant de la scène, des sujets autour de la question des droits des femmes. Et c'est quelqu'un de très volontaire, qui va toujours au front, sur qui Emmanuel Macron peut compter coûte que coûte. Donc ce week-end, quand les articles de presse parlent d'un Macron isolé, proche du burn-out, rincé, c'est lundi matin, c'est Marlène Schiappa qui est envoyée au front sur les matinales pour prendre la défense du chef de l'État. Et contrairement surtout à d'autres membres du gouvernement qui sont un peu plus frileux ou qui sont un peu plus discrets, qui n'ont pas trop l'habitude de prendre des risques et d'aller justement comme ça prendre la parole dans les médias. Ben elle y va, elle n'hésite pas, elle fonce. Et elle est très, très loyale vis-à-vis d'Emmanuel Macron, quitte même parfois à renier certains de ses principes, puisque pendant l'affaire Hulot, qui était accusée de viol quand même, elle a, pareil, elle a quand même pris la défense au final de M. Hulot et de... Et elle a écrit une tribune, elle s'est présentée à ses côtés. Enfin, il y avait toute une mise en scène comme ça, médiatique un petit peu. Et... Alors que l'un de ses grands principes, c'est quand même de protéger la parole des femmes, de l'encourager. Donc là, ça fait un peu tâche, ouais.
Alors, quelle est selon vous la fonction de l'omniprésence médiatique en fait, de Marlène Schiappa, qui est quand même, comme vous l'avez dit, très présente sur les plateaux télé et même sur les réseaux sociaux également. Elle prend beaucoup la parole sur Twitter pour porter certains sujets. Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc, comme je vous le disais, Marlène Schiappa, elle est diplômée en communication. Et elle a clairement les codes de l'art de la mise en scène, de la société du spectacle. Ça, c'est des choses qu'elle maîtrise et dont elle fait un de ses étendards, finalement, puisqu'elle se dit être en dehors des codes, de la politique traditionnelle. Elle aime ce côté très proche, avec une communication directe, donc via Twitter, où elle interpelle tout le monde, les journalistes, les gens. Elle n'hésite pas. Elle a aussi écrit beaucoup de livres, elle a interprété les monologues du vagin, elle a présenté un débat, enfin animé un débat avec Cyril Hanouna, elle a interviewé Claire Chazal, elle a fait un entretien pour le magazine très ultra-droitier Causeur. On peut lui reprocher une certaine confusion des genres, très clairement. Mais elle, c'est, pour elle, c'est un atout. Au contraire, c'est une manière de ramener les gens vers le débat public. C'est son argument principal. Et là-dessus, elle a le mérite de mettre des questions sur le devant de la scène. Mais après, entre écouter un débat et l'animer, est-ce que c'est vraiment la place d'une secrétaire d'État? J'en doute un peu.
Comme elle le dit elle-même, elle troll les médias. C'est ce qu'elle a dit sur le plateau de, enfin pour défendre son apparition sur le plateau de Cyril Hanouna. Donc c'est vraiment une stratégie quoi. On parle beaucoup du style Schiappa. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on reproche exactement que lui reproche en tout cas ses détracteurs à Marlène Schiappa?
Clairement, depuis qu'elle est entrée au gouvernement, il y a un truc dans le style Schiappa qui dérange un peu et qui détonne, c'est qu'elle a coupé toute communication avec les associations de défense des droits des femmes, de lutte contre les violences faites aux femmes, contrairement à tous les cabinets précédents qui étaient au contraire en contact permanent avec ces associations-là. Et elle, à la place, et ben Marlène Schiappa, très régulièrement, elle invite des chefs d'entreprise, des blogueuses, des élus dont elle est assez proche. Et auprès de, donc c'est tout un petit réseau comme ça qui lui est assez dévoué et auprès duquel elle teste finalement les mesures du gouvernement. Elle considère que les associations féministes sont dépassées, qu'elles sont d'un ancien temps, qu'elles ne sont plus vraiment importantes, quoi, dans le sens où elle considère que c'est un peu quelque chose d'un ancien temps, ouais, clairement. Alors que bah, ces femmes entrepreneuses donc avec qui elle est en contact, bah, qui sont-elles, d'où viennent-elles, que font-elles concrètement au quotidien pour aider les femmes victimes de violences? Je ne sais pas, j'ai un petit doute sur le bien fondé de les inviter. Et elle est clairement clivante auprès des assos. Elle a par exemple coupé tout contact avec l'Association européenne contre les violences faites aux femmes, qui a vu son standard vraiment exploser après le mouvement MeToo et n'a pas bénéficié de subventions supplémentaires. En fait, elle se passe totalement de l'expertise de terrain des associations et... Pour elle, la parole de ces personnes-là vaut peut-être plus qu'une autre, en tout cas.
Le féminisme de Marlène Schiappa est fermement ancré dans le libéralisme, l'entrepreneuriat et la maternité. Du
côté de ses ambitions, elle déclare pour l'instant ne pas être candidate pour les élections européennes de 2019 et les municipales de 2020. Elle a néanmoins souligné être en faveur du choix d'une femme pour la tête de liste de La République En Marche aux européennes, mettant Agnès Buzyn, Brune Poirson ou encore Nathalie Loiseau en avant. Merci à Isabelle Germain et Fanny Marlier pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.